Du 19 mars au 12 juin, c'est le printemps de l'agriculture paysanne. Une série d'événements, rencontres, discussions et débats sur les enjeux de l'agriculture bio, locale, paysanne et bien sûr sur l'alimentation. Nous recevons aujourd'hui pour en parler sur Radio Ondenne sur le 90.9 FM et les www.radio-ondenne.fr Jean-Noël Rodriguez et Jean-Marc Chazot de Vers de Terre, l'association qui organise cet événement. Bienvenue à tous les deux, bonjour.
Merci.
Alors, le printemps de l'agriculture paysanne est un événement qui est amené à se répéter, qui se répète. C'est un événement organisé par l'association Vers de Terre. On va poser les fondations, les bases, les racines de tout ça. Vers de Terre, qu'est-ce que c'est ?
Donc, c'est une asso qui est née en 2017, de 17-18, dont l'objectif était justement de faire parler de l'agriculture paysanne et d'essayer de regrouper tous les acteurs qui participent à cette agriculture qui peut sauver la planète, qui peut sauver notre pays, parce que l'agriculture, l'agro-industrie a échoué, on le sait tous, et aujourd'hui il faut qu'on revienne aux fondamentaux de l'agriculture paysanne. Donc notre objectif, nous, issus de différentes associations, le réseau des AMAP, la ferme au quartier, ADR, etc. Enfin, on pourra les citer plus en détail, mais c'était de créer une association pour organiser un événement qui s'appelle le Salon de l'agriculture paysanne Vers de Terre et qui a lieu tous les deux ans. Donc, il y a déjà eu deux Salons Vers de Terre en 2019 et en 2021. 21 a été un petit peu impacté par vous savez quoi. Et le prochain, c'est le week-end du 9-10 septembre 2023. Donc on va bientôt passer à la préparation. Mais l'autre événement, Jean-No va vous en parler, c'est un événement qui lui est annuel et qui s'appelle le printemps de l'agriculture paysanne.
Alors avant d'en parler, pour comprendre et avoir ce vocabulaire commun que l'on peut avoir, l'agriculture paysanne, c'est quoi concrètement? Quelle est la définition que vous donnez?
L'agriculture paysanne, elle se définit déjà par une charte qui a été établie, qui définit différents points et différents critères. C'est une agriculture, pour faire simple, qui se rapproche un peu de l'agriculture des grands-parents et des arrière-grands-parents. Une agriculture qui est à la fois respectueuse de l'environnement, donc qui va se passer de produits chimiques, qui va souvent être sur des fermes à taille humaine, hein, on n'est pas sur des fermes qui font des hectares et des hectares, qui regroupent souvent différentes productions, différentes choses, comme on peut très bien avoir un peu d'élevage avec 2-3 vaches, quelques cochons, et faire sceller quelques légumes, et faire en sorte que tout ça soit en cohésion et fasse une ferme, voilà, qui soit assez complète, en fait. Après, il y a d'autres valeurs que ça véhicule, notamment le respect des ressources, de la biodiversité, faire attention, voilà, à garder des haies pour les petits oiseaux, des choses comme ça. Forcément, il y a aussi un aspect sur l'ancrage territorial, l'entraide entre paysans. Enfin, il y a pas mal d'aspects différents de valeurs que sont l'agriculture paysanne.
Alors des valeurs qui peuvent être développées et discutées, notamment sur cet événement, le printemps de l'agriculture paysanne. On est à mi-parcours, hein, de cet événement-là. Mais je vais rester quand même dans cette présentation. Qui sont ces paysans en question? Est-ce que ce sont des exploitants qui sont nouveaux, qui arrivent nouvellement? Est-ce que ce sont aussi des exploitants qui ont toujours revendiqué cette façon de cultiver? Ou est-ce que ce sont aussi peut-être des exploitants qui ont changé leur fusil d'épaule en se rendant compte la limite finalement de l'exploitation à outrance et des systèmes d'exploitation à chercher totalement la rentabilité?
Il y a un peu de tout. Autant, alors, il y a des paysans qui, depuis des décennies, sont sur leur ferme en bio, par exemple, qui sont souvent adhérents depuis de nombreuses années à la Confédération paysanne, le syndicat paysan, qui défend ces valeurs de l'agriculture paysanne. De la même manière, il y a aussi, en effet, des paysans qui changent de fusil d'épaule, qui voient que leur modèle de leurs exploitations ne vont plus. les exploitations qui vont à outrance s'agrandir, forcément demandent aussi de se fournir avec des engins agricoles, de s'endetter. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On voit tous les jours des paysans qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les statistiques disent qu'un paysan se suicide tous les deux jours. C'est quand même énorme. C'est un gros problème. C'est des gens qui travaillent 60 heures par semaine pour 400 euros par mois. Enfin voilà, c'est pas viable, c'est pas tenable. Du coup, il y a beaucoup de plus en plus de paysans qui reviennent en arrière et qui font le pas justement de sortir un peu de l'agro-industrie intensive pour aller vers une agriculture plus réduite, mais voilà, qui engendre moins de coûts et avec notamment les circuits courts, comme on l'est nous au sein des AMAP ou dans d'autres circuits de distribution en vente directe, où les paysans peuvent mieux vivre de leur travail et tirer meilleur profit, voilà, en éliminant des fois des marges, des choses comme ça. Et après, pareil, le troisième volet, en effet, il y a énormément de jeunes qui s'installent. Alors des fois ce sont des jeunes qui sont des enfants de paysans qui font des cursus pour apprendre le métier, comme des fois des citadins qui font un retour à la terre et qui désirent totalement de changer de vie, de métier, et qui s'installent. Et souvent ce sont des gens en effet qui font le choix de l'agriculture paysanne.
Je prolongerai un petit peu la réponse de Jean-No en rappelant deux éléments importants. Le premier, c'est que dans les 10-15 ans, il va y avoir une grosse partie des paysans qui arrivent à l'âge de... Le mot retraite, je ne sais pas si ça s'applique bien pour eux, mais d'arrêter, de vendre ce qu'ils peuvent vendre pour essayer d'avoir un petit capital pour affronter une retraite où ils ne toucheraient pas grand-chose, encore moins que pendant leur travail. Et donc, il va y avoir beaucoup de changements. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'un paysan sur deux n'est pas un paysan qui s'installe en transmission familiale. Ce qui a été le cas pendant plusieurs dizaines, quelques centaines d'années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les NIMA, non issus du milieu agricole, qui s'installent. Donc, c'est des gens qui parfois changent complètement d'horizon professionnel, qui font le choix de venir travailler dans un boulot qui les passionne, mais où ils savent d'avance qu'ils gagneront forcément moins que ce qu'ils avaient avant. Donc ça, tous ces nouveaux paysans, ils vont s'ajouter à ceux qui ont fait le choix de transformer leur production, à ceux qui, heureusement, il y en a encore quelques-uns qui continuent l'installation familiale et qui vont la moderniser, elle l'est déjà. Et donc tout ça, ça va faire un mix qui, quand on parle du... Il n'y a pas une unité de la paysannerie, mais il y aura une diversité, ce qu'on a eu d'ailleurs pendant plusieurs siècles avant de changer et d'avoir une uniformité totale des paysans qui aujourd'hui crèvent parce que tout simplement, on leur a imposé un système de monoculture, de mono-élevage, qui ne leur permet pas de résister. Le second problème, c'est le problème du défi climatique. Et il est clair qu'avec ce qu'on a fait faire aux paysans, à savoir beaucoup de monoculture, quand il y a un événement climatique qui arrive, ils détruisent d'un coup toute leur production, alors que ceux qui ont commencé, il y a déjà un effort important de fait, notamment dans l'agriculture paysanne, de diversifier leur production, il se trouve que ils sont pas sans dégâts, mais ils vont avoir des dégâts sur ce qui était en fleur au moment du gel, par exemple, pour prendre l'exemple du gel. Par contre, il y a d'autres productions qui n'étaient pas bien avancées et qui, du coup, sont sauvées. Quand on n'a qu'un type de production et que cette production est touchée par un événement climatique, eh ben on perd 100% de ce qu'on a fait.
Alors effectivement, et c'est ce que vous essayez de développer dans les réflexions et les discussions tout au long de ce printemps de l'agriculture paysanne, avec ce point de départ qui était le 19 mars, je le rappelle, on a mi-parcours hein, de ce printemps de l'agriculture paysanne, et la base, finalement, les semences aujourd'hui, on entend ici et là effectivement, ces choses que l'on va planter issues de l'industrie, avec un travail par-dessus... sur les OGM, etc. Là, on repart vraiment de la base hein, sur ce milieu de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire planter des graines et les replanter au fur et à mesure. Ça, c'est quel est ce point de départ? Est-ce que c'est volontaire de cette discussion, la fête des semences paysannes?
C'est un peu le hasard, mais c'est assez marrant parce que finalement, effectivement, chronologiquement, c'était bien de démarrer par la fête des semences. Mais c'est involontaire dans le sens où la fête des semences a eu 2 années d'interruption, mais ils ont toujours tenu cette fête au moment, au troisième, quatrième samedi du mois de mars. Donc c'était le hasard, mais c'est un hasard qui est très très bien tombé pour nous.
Alors c'est une question qui reste à poser, hein. On n'est peut-être pas tous au courant, mais effectivement aujourd'hui on plante des choses avec qui ne produisent pas de graines.
Alors oui, voilà, c'est la plupart des semences qu'utilisent notamment les maraîchers ou les céréaliers. On appelle ça des semences F1, ce sont des hybrides, hein, donc qui ont été croisées au fur et à mesure des décennies pour avoir telle propriété, tel type de rendement, pour avoir une plante qui va pousser haut, pour avoir une plante qui va avoir beaucoup de grains dans son épi, des choses comme ça. Mais ce sont des plantes qui, au fur et à mesure, en fait, ont tellement été sélectionnées qu'elles ont perdu notamment une diversité génétique. Elles ont perdu des résistances naturelles, elles ont perdu des capacités d'adaptation, ce qui font que ces plantes-là sont de plus en plus fragiles à force de les spécialiser, d'aller chercher telle propriété plus que d'autres. Voilà, on a affaibli la plupart des plantes, ce qui fait que on est obligé souvent d'aller à recours d'engrais pour les aider à pousser, de pesticides ou de traitements pour les aider à combattre les maladies, alors qu'à la base, les plantes sont quand même relativement adaptées à tout ça. Et en effet, ce sont souvent des plantes qui ont été hybridées de manière à ce que leurs graines ne puissent pas être ressemées. Si vous ressemez une tomate que vous êtes allé acheter en la grande distribution, il y a très peu de chances que vous ayez un plant de tomate, la graine ne germera pas. Ça a été sélectionné et croisé depuis des décennies pour ça. Ça oblige du coup les paysans à toutes les semaines à aller voir, enfin tous les ans, à retourner voir les semenciers ou les gens qui fabriquent les petits plants qui vont aller planter. Et ça les encourage, voilà, tous les ans à mettre la main au portefeuille pour ressemer ou remettre en plantation leur culture. À l'inverse, les semences paysannes, justement, ce sont souvent des semences de terroir, donc des variétés locales souvent, qui du coup peuvent se ressemer, hein, donc ce sont pas des semences qui ont été hybridées et ce sont des semences, si vous les replantez, elles vont faire des plants, elles vont se reproduire naturellement, et du coup voilà, c'est des semences qui peut-être vont avoir un peu moins de rendement ou il y aura peut-être un peu de perte ou elles vont être un peu plus difficiles peut-être à travailler, mais elles sont souvent adaptées à leur territoire et elles vont du coup avoir plus de facilité à s'adapter au changement climatique, à encaisser une sécheresse ou des fortes chaleurs ou du gel. Elles vont être plus à même de pallier un peu à toutes les difficultés que peuvent rencontrer les plantes. Elles vont être plus résistantes aux maladies. Et un aspect aussi qui est non négligeable, c'est que ces semences paysannes, au niveau nutritif, leurs fruits, les légumes, les céréales qui vont en être la récolte, vont être bien meilleures pour la santé au niveau nutritif. Voilà, elles vont avoir des apports bien meilleurs. Et en plus du goût aussi, alors là, ça rajoute encore une facette. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages aux semences paysannes.
Donc, c'était un point de départ. Revenons également sur ce qui s'est passé avec deux points et deux soirées dédiées à la sécurité sociale de l'alimentation. C'est quelque chose que vous discutez régulièrement, notamment au salon Vers de Terre et que vous rediscutez aujourd'hui. Quelle est cette notion qui est défendue? Quel est ce concept-là?
Le concept, c'est de dire que il y a un peu plus d'un demi-siècle, et même beaucoup plus d'un demi-siècle, on a créé la sécurité sociale, qui hélas, dans les 20 dernières années, a été un peu dépiautée de toute sa valeur, mais qui existe toujours. Et on se dit que si on veut que cette agriculture de qualité, cette agriculture la plus souvent bio, mais aussi de l'agriculture tout court paysanne qui, même si elle n'est pas bio, empêche l'accélération, enfin l'augmentation des intrants, des OGM, etc. Et bien, si on veut qu'elle soit ouverte à tous, on n'est pas dupe. Aujourd'hui, l'alimentation de qualité, elle s'adresse à ceux qui ont les moyens de la payer. Et même si des réseaux de circuits courts, Jeannot le disait tout à l'heure, permettent de diminuer des marges, donc permettent d'avoir, on va dire, des produits à peu près au même prix qu'on les trouverait voire moins cher qu'on les trouve dans le domaine des grandes surfaces, tous ces apros-là, on peut faire beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on peut, dans le futur, organiser une sécurité sociale de l'alimentation. C'est le combat de tout un tas de collectifs qui, en France, se battent pour faire éclore cette sécurité sociale de l'alimentation. Alors, on va dire que le moment le pire pour le faire, c'est aujourd'hui. Donc, justement, faut le faire. À mon avis, si on est utopiste, on se dit, ça passera jamais au moment où la sécurité sociale est dépiautée. Eh ben, au contraire, c'est peut-être le moment de faire comprendre que pour faire manger correctement tout le monde et pas uniquement les gens qui ont les moyens, il y a une solution. Alors, elle fonctionnerait un petit peu. Les bases sont pas encore semées, mais il y a plein d'idées qui sont en cours pour défendre ce projet. Les bases, ce serait un peu calqué sur la sécurité sociale, à savoir que sur les salaires, une somme serait prise pour que tout le monde puisse avoir un montant d'alimentation possible. Et le gros boulot qu'on aura à faire, le premier boulot, bien sûr, c'est de faire accepter ce projet-là à des gouvernants qui n'en ont pas forcément envie pour le moment. Mais l'autre boulot, c'est aussi de dire, comme la sécurité sociale de la médecine, il faut qu'après on fasse conventionner une certaine agriculture. Et c'est là où on aura un second combat à mener pour dire, ben voilà, l'agriculture, l'agro-industrie, il est hors de question qu'elle soit conventionnée pour que les gens l'utilisent avec leur carte de sécurité sociale. Une carte vitale, un peu comme la carte de santé.
D'accord.
En fait, il y a aussi un point qu'il faut soulever, c'est que là, on, si je ne m'abuse, le chiffre est de 8 millions de personnes en France qui ont besoin de l'aide alimentaire. C'est un constat qui est terrible. Et ce qui veut dire qu'il y a quand même 8 millions de personnes qui, en France, ont du mal à se nourrir. À se nourrir tout court. Donc là, cette solution de la sécurité sociale de l'alimentation permettrait justement de remettre les bases pour tout le monde. Justement, d'un accès à l'alimentation digne et de qualité.
C'est aussi ce que vous appelez le projet alimentaire territorial. C'est aussi ça que ça interroge. C'est que finalement, cette sécurité sociale de l'alimentation, elle est valable aussi si on peut fournir ces produits-là. Et fournir ces produits, c'est aussi du circuit court, du local. Et c'est donc imaginer à nouveau l'implantation des cultures sur notre territoire. Cette question-là, du projet alimentaire territorial, qu'est-ce que c'est ? C'est que le territoire puisse fournir ce dont les habitants ont besoin sur un secteur donné ?
L'idée, c'est de dire, on va diminuer les transports, parce qu'aujourd'hui, si on regarde, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont très très faibles, les chiffres qui donnent l'alimentation qui est fournie par le territoire. On va prendre de Saint-Étienne-Métropole, puisqu'on parle du PAT de Saint-Étienne-Métropole, mais il y a d'autres PAT dans la Loire qui travaillent aussi, qui essayent de faire avancer des choses. Je sais pas, c'est inférieur à 10%, mais c'est même beaucoup plus bas que ça. De l'alimentation des métropolitains de Saint-Étienne-Métropole proviennent de la métropole. Et on va pas aller chercher d'où proviennent les autres, mais on en a qui proviennent de très très loin. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec la guerre d'Ukraine, où on se retrouve un peu confronté à des problèmes d'approvisionnement pour les paysans, entre autres. Si on relocalise pas tout ce qu'on produit, on va dans le mur, on y est peut-être déjà un petit peu. Donc aujourd'hui, on a des paysans qui peuvent pas vivre parce qu'ils arrivent pas à tirer un profit minimum de ce qu'ils font. On a des gens qui arrivent pas à manger. On parlait de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, il faut le savoir, c'est uniquement quelque chose qui sert à équilibrer l'agro-industrie. L'agro-industrie, pour exister, pour fonctionner correctement, elle est obligée de faire des excédents. Et ces excédents, eh ben, ils sont repassés dans l'aide alimentaire. Parce que l'aide alimentaire, il n'est pas question qu'elle vienne de l'agriculture paysanne. Donc, non seulement c'est une aide, alors que nous, on parle de solidarité avec la sécurité sociale de l'alimentation, mais en plus de ça, c'est une aide avec des produits qui sont en plus défiscalisés pour les grandes surfaces. Si on prend l'exemple des grandes surfaces, il n'y a pas que. Et qui en plus sont des produits de mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, relocaliser l'alimentation, c'est permettre aussi de savoir d'où elle vient, savoir comment elle est faite. Et notre objectif à nous, toutes les associations qui tournent autour de l'agriculture paysanne, que ce soit Vers de Terre bien sûr, mais il y a également tout ce qui tourne autour du projet Dutreuil, la ferme au quartier, la fabrique de la transition, beaucoup d'associations, d'organisations ont participé aux ateliers que Saint-Étienne Métropole a mis en place pour avancer sur ce PAT. Nous, de notre côté, autour de la Fabrique de la Transition et de la, du Centre du Treuil, on a fait aussi beaucoup d'ateliers avec des gens qui venaient de différents domaines, d'écoles d'horticulture, des associations comme les croqueurs de pommes, pour prendre des exemples aussi divers. Bien sûr, les réseaux AMAP, le réseau Vert de Terre, etc. Et tout ça se passait au Treuil. On a beaucoup avancé là-dessus. Et lors de la soirée du 12 mai, si je ne me trompe pas, en fait, on va lancer le projet qu'on propose pour le PAT. Donc, d'un côté, on était participants au débat qu'a créé le 7e Métropole, et puis je crois que c'était important de participer. On était souvent très nombreux de l'agriculture paysanne, un peu moins de l'agriculture traditionnelle, qui pense peut-être qu'il n'y a rien à organiser, que tout va bien. Et de notre côté, on a aussi travaillé, non pas pour dire ce qu'on a fait au PAT de Saint-Étienne Métropole, c'est pas bien, mais nous voilà, notre rapport, il serait de tel type, on pourra faire 10 propositions, on aura une table ronde ce jour-là pour en discuter, on enverra à Saint-Étienne Métropole avant notre 4 pages de propositions pour qu'ils puissent aussi participer à ce débat s'ils veulent venir ce jour-là. Donc voilà, cette soirée-là, c'est une soirée importante dans le cadre de la mise en place du PAT.
Alors une soirée, donc c'est au Treuil, c'est à Chambœuf le 12 mai à 19h. Si on prend les prochains rendez-vous, on peut citer facilement le vendredi 22 avril à 18h30 à l'Amicale Laïque de Beaubrun, une soirée de présentation du livre de l'atelier paysan, et le livre s'intitule « Reprendre la terre aux machines ».
Alors ça c'est, on va dire, la soirée organisée vraiment que par le Vert de Terre.
D'accord.
Parce que dans ce printemps de l'agriculture paysanne, en fait, on est là pour mutualiser des projets qui existaient. Par exemple, quand on va parler du 23-24 avril tout à l'heure, c'est de ferme en ferme. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais c'est intéressant que ça rentre dans le cadre du printemps de l'agriculture paysanne. Pareil pour la fête des semences, pareil pour la fête du lait bio, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui existaient, qui sont mutualisées en fait, qui sont, on va dire, connectées sur ce printemps. Donc ça permet de faire connaître ensemble pas mal de dates. Et puis il y a aussi des choses qui ont été créées par les uns et les autres. Donc nous, sur l'association Vert de Terre, ce qu'on a mis en place, c'est justement ce débat sur le livre qui a été écrit par un collectif autour de l'atelier paysan. Et un des contributeurs à ce livre, qui s'appelle Hugo Persillet, si je ne me trompe pas, sera présent pour en débattre le 22 avril à 18h30. C'est ça, je ne me trompe pas.
C'est ça. C'est
à 18h30 à l'Amicale Laïque de Beaubrun.
À 11 rue de l'Apprentissage à Saint-Étienne. On en parle tout de suite le samedi 23 et dimanche 24 de ferme en ferme. Ça, c'est un événement où on est invité et surtout les paysans, exploitants invitent le grand public à venir visiter des fermes pour mieux comprendre la réalité, pour découvrir des façons de fonctionner. Et là, donc, c'est un moment où vous vous retrouvez finalement aussi avec cet événement-là qui existe depuis des années. Ça, c'est important aussi que le grand public puisse connaître les conditions de travail et voir, non pas le paysan travailler, mais voir l'endroit où il est installé et se dire qu'ici se produit des choses que l'on peut potentiellement avoir dans son assiette.
Bien sûr, bien sûr. Au-delà de la sortie familiale où les plus jeunes, les enfants peuvent apprécier d'aller voir des animaux de ferme et être dépaysés un petit peu. C'est en effet important, voilà, de reconnecter les citoyens et les mangeurs tout court avec justement le monde paysan, d'aller voir en effet les pratiques, d'aller à la rencontre, d'aller discuter, d'aller s'informer. Et voir leur quotidien, leur réalité, comment en effet ils travaillent. Il y a une quarantaine de fermes, si je ne m'abuse, hein, qui participent à l'opération entre le Rhône et la Loire. Là, sur notre territoire, c'est mutualisé sur les deux départements. C'est un événement qui est proposé par l'ADEAR principalement. C'est une association qui justement aide au soutien pour les porteurs de projets, les gens qui veulent s'installer. Ils dispensent pas mal de formations, ils font de l'accompagnement de projets. C'est notamment voilà l'ADEAR qui porte cet événement de ferme en ferme. Hein. Si vous voulez plus d'informations, www.defermeenferme.com, vous aurez l'ensemble des fermes qui participent sur le département de la Loire et du Rhône et qui seront ouvertes ce week-end-là. Voilà, comme le disait Jean-Marc, pendant tout le printemps d'agriculture paysanne, il y a pas mal de structures qui organisent chacune leur événement, que du coup, comme le disait mon copain, On a décidé de mutualiser à travers cette programmation commune.
Alors, on rappelle d'autres dates aussi. Le 6 mai, ça sera à Saint-Just-en-Ambert, à l'Oasis, les Jardins de Cocagne. Suivi aussi du 7 mai, toujours au Treuil à Chambœuf.
Le 7 mai, je voudrais intervenir là-dessus.
Oui, alors voilà.
Donc, le 7 mai, ça se trouve être dans le cadre de la... Ce jour-là, le matin, il y a l'Assemblée Générale du réseau AMAP de la Loire. Le réseau AMAP de la Loire et le réseau AMAPORA participent depuis l'origine à Vers de Terre, enfin à Vers, au salon Vers de Terre. Une partie des bénévoles investis fortement sur le réseau Vers de Terre, sur l'association Vers de Terre, sont issus de d'AMAP, pas uniquement, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des gens issus d'autres associations, et il se trouve que ça paraissait important qu'on fasse une animation ce jour-là. Il s'agira donc d'une projection de deux films. Un film qui s'appelle La Terre du Milieu de Juliette Guignard, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de productions de cinématographiques sur le domaine des paysans, c'est intéressant. Parfois, il y a quelques productions qui sont plutôt positives. Celle-là, je reconnais que j'ai pas vu encore le film, mais que c'est intéressant parce que c'est un film sur la description vraiment de la vie d'une paysanne. Et on passe un film qui s'appelle Terre de Femmes, qui est en fait un film qui est organisé en 12 petits films montrant une paysanne de la région Aura. Donc il y a une paysanne par région qui donne l'occasion de faire un petit film. Et en fait, on avait passé la moitié de ces films lors de l'organisation du salon 2021, donc pour lancer le salon en juin 2019, pardon. 19, ouais, on l'avait passé. Donc là, c'est l'occasion de repasser 4 films.
Et Marie-Ange Poyet, la réalisatrice,
paysanne qui est dans le... qui est Stéphanie Moulin, qui était dans l'organisation de Vers de Terre sur le premier salon, et qui est l'image de la paysanne de la Loire, c'est elle.
Alors, le programme est donné, donc le printemps de l'agriculture paysanne, c'est jusqu'au 12 juin avec les différents événements qui vous ont été présentés ici. Bien sûr, on peut retrouver tous ces renseignements sur le site. Hein. On va rappeler aussi le 20 mai, goûter familial, ça c'est au terroir, c'est un magasin de producteurs. Le 21 mai, il y a quoi ? Il y a cet Atrelin du côté, à côté de Montbrison, une randonnée avec des visites de ferme, et puis le 12, c'est là à Buzy-Albieux, c'est où ça?
C'est dans le nord du département.
C'est dans le Rouennais, je pense, entre l'autoroute à 72 et le Rouennais.
Et là, c'est la fête du lait bio. En tout cas, tout ce programme-là se retrouvera sur vos réseaux internet. On va se quitter en quelques secondes, il nous reste à peine une minute. Pourquoi faut-il participer à tous les événements, et si ce n'est pas tous, au moins l'un des événements?
Pour découvrir beaucoup de choses sur l'agriculture paysanne, qui sont encore inconnues pour une partie du public citadin notamment, pour rencontrer ce qu'est la paysannerie aujourd'hui et ce qu'elle sera encore plus demain.
Jean-Noël, 10 secondes.
Ah, parce qu'il faut, il y a urgence à changer de système agricole, il y a urgence à mieux manger, il y a urgence à soutenir nos paysans qui, comme je disais tout à l'heure, meurent tous les jours. Voilà. Venez nous voir, venez, on va parler de tout ça.
Alors Jean-Marc et Jean-Noël, merci d'être venus donc nous présenter ce printemps de l'agriculture paysanne. Vous parliez au nom de l'association Vers de Terre. D'autres rendez-vous sont donnés, mais d'ores et déjà, on coche le mois de septembre 2023 pour le salon Vers
Troisième
de Terre.
Salon.
Tout à fait.
Troisième salon.
Le rendez-vous est donné. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, on est sur Facebook. Vous cherchez Vers de Terre, vous nous trouvez.
Merci à vous.
Et merci de nous avoir reçus.
À bientôt.
Merci à vous.